Alors, on va voir un peu les halakhot de Pessah, un peu des halakhot de Pessah, une seconde. Pessah, il y a beaucoup de mitzvot. Il y a plusieurs parashiot dans la Torah. Pessah, c'est un Yom Tov spécial. Tous les Yamim Tovim sont spéciaux. Et Pessah, c'est Pessah. C'est le yesod de Yiddishkeit. Les halakhot. Quels sont les halakhot? Quels sont les mitzvot qui sont marqués dans la Torah? Combien de mitzvot assez? Combien de mitzvot l'ota assez? D'abord, il y a une mitzvah de manger de la matzah, de manger un korban pesach, de manger le maror. Il y a mitzvah de Yom Tov, festoyer le Yom Tov. Il y a la mitzvah de monter à Yerushalayim la Regel, la mitzvah de Simchat Yom Tov. Il y a une interdiction de manger du chametz. Il y a une interdiction de posséder du chametz. Il y a une mitzvah de enlever le chametz. Il y a la mitzvah de Sfirat HaOmer. Après tous les mitzvot de raconter la sortie d'Égypte, mitzvah de Sipur Yetziat Mitzrayim, de faire le seder, kahalacha, ce sont des grandes mitzvot. Et comme on dit dans la Haggadah, Chayav Adam Lirot Et Atzmo Kehilu Hu Yatsa Mimitzrayim. La mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est que ilu hu yatsa mimitzrayim. Il faut se sentir comme soi-même, comme nous-mêmes, nous sortons d'Égypte. Quel est le sens de ce Mahamar? Le sens de ce Mahamar, c'est de vivre l'histoire de la sortie d'Égypte. Ça veut dire, il faut se voir sortir d'Égypte. La mitzvah de vivre comme l'Avdil dans un film, voir Moshe Rabbeinu, voir Arna Kohen, les 600 000 juifs, voir Paro, comment ils jettent les enfants dans le fleuve, comment on frappe les juifs, comment Moshe Rabbeinu parle à Paro, arrête, fais sortir les juifs. Dam, Tsfardeya, Kinim. Et après, on sort d'Égypte, on chante, on est devant la mer, Moshe Rabbeinu lève le bâton, la mer se coupe en deux. Vivre cet événement. Kilohu atzmo yatsa mimitzrayim. Ça, c'est le ikar de la mitzvah. C'est pour ça, il y a une halakha. Et on dit dans la Gemara Psachim, quand on boit les quatre coupes, alors, Shata'an, Bebat Achat, Yedei Yain Yatsa, Yedei Cherut Lo Yatsa. Un homme qui boit les quatre coupes, Bebat Achat, sans raconter la Haggadah au milieu, il remplit une coupe, il le boit. Plus tard, il remplit une deuxième coupe, il le boit. Plus tard, il remplit une troisième coupe, il le boit. Il remplit une quatrième coupe, il le boit. Yatsa, la mitzvah de boire du vin pour se réjouir pour le Simchat Yom Tov, il est yotze cette mitzvah. Mais Yedei Cherut lo yatsa, il n'a pas été yotze. La mitzvah de Cherut de liberté, la mitzvah c'est d'accompagner la boisson du vin avec un texte. On vivant un texte avant la première coupe, on dit qu'il douche. Avant la deuxième coupe, on dit la Haggadah, Avadim. Avant la troisième coupe, on mange le Pesach, Matzah et Maror et Birkat Amazon. Avant la quatrième coupe, on fait Hallel. On vit le Seder. Et on vit le Seder et après chaque étape, on boit un vin. Avant le Chaim, on arrose cette liberté. Et ça, c'est la mitzvah. Boire seulement quatre coupes. On est yotze la mitzvah de Simchot Yom Tov, mais on n'a pas fait le der Cherut. Alors, nous n'allons pas commencer tout de suite avec le seder. D'abord, on va voir un petit peu tous ces halakhot qui entourent le Pessah. Il y a dans les lois de Pessah des choses qui sont min haTorah. Il y en a d'autres choses qui sont min derabanan. Et dans les choses qui sont min haTorah, il y a des mitzvot asei, il y a des mitzvot lo taaseh. Il y a des lo taaseh qu'on est chayav dessus malkout. Il y a des lo taaseh qu'on est chayav karet. La plus grande chose, c'est karet. Karet, c'est pour quelle chose? Pour manger du chametz. Kol ochel chametz, ou kol ochel seor, v'nichreta nefeshi me'ameha, c'est le pire qui existe. Manger du chametz. Mais il n'y a pas que dans le chametz des choses qu'on a chayav karet. Il y a une interdiction de posséder du chametz. Ceux qui possèdent chametz, il n'est pas chayav karet. C'est asur min haTorah, mais on n'a pas chayav karet. C'est moins grave. Il y a aussi manger du chametz pour laquelle on n'est pas chayav karet, mais c'est seulement un lave. Chametz al edei taharovet, du chametz qui est mélangé avec d'autres produits. Ils mangent du chametz avec des pommes de terre. Il y a un peu de chametz, il y a beaucoup de pommes de terre ou d'autres choses. C'est aussi asur min haTorah. Mais on n'est pas chayav karet pour ça. Il y a d'autres choses qui sont asur min haTorah. C'est travailler Yom Tov. C'est aussi asur min haTorah. Mais en pour restant dans le chametz, il y a des choses qui sont asur min derabanan. Il y a des choses où il y a deux avis si c'est on est asur. Il y a des chumrot, il y a des minhagim. Chaque chose est importante. Même un minhag est important. Mais un minhag n'a pas la même importance comme quelque chose qui a sourmi de rabanan. Quelque chose qui a sourmi de rabanan, il n'y a pas la même importance que ce qui a sourmi la Torah. Ce qui a sourmi la Torah ou ce qui est chayav karet, c'est pas la même importance. C'est important à savoir afin de ne pas inverser les priorités. Quand il y a une question de quelque chose qui assure mina Torah ou midrabanan ou un minhag, c'est pas la même chose. Faire attention sur des minhagim, c'est beau, à condition que d'abord on a fait, bien sûr, on fait attention à halakhot qui sont les ikarot. Alors, d'abord, on va voir qu'est-ce que c'est chametz. Dans la Torah, il est marqué qu'on n'a pas le droit de manger du chametz et posséder du chametz, ainsi seor, du levain. Qu'est-ce que c'est chametz? Qu'est-ce que c'est seor? Et qu'est-ce que c'est pas du chametz? Qu'est-ce que c'est pas du seor? Faut pas s'entremêler les pattes. Alors, qu'est-ce que c'est chametz? C'est un produit composé par du céréal, par cinq espèces de céréales qui ont fermenté. Quelles céréales? Il y a cinq céréales, pas plus. Le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Ce sont les cinq céréales. Tous les autres ne sont pas chametz. Peuvent pas devenir chametz. Mais ces céréales ne sont pas forcément chametz. Quand ils poussent, quand on les coupe du champ, ils ne sont pas encore chametz. C'est seulement quand ils sont en contact avec de l'eau, alors l'eau qui rentre en contact fabrique la fermentation. Qu'est-ce que c'est la fermentation? Il y a dans l'air, il y a sur le blé des champignons. Et ces champignons, pour se multiplier, pour vivre, ils ont besoin du sucre. et dans le blé se trouve du sucre. Alors, quand il y a de l'eau avec ces champignons sur le céréal, ces champignons y mangent le sucre. Et à cause de ce sucre qui est dans le blé, dans l'orge qui est mangé, le blé est moins sucré. C'est pour ça que ça s'appelle chametz. Le mot chametz vient du mot chamutz. Chamutz veut dire aigre. Aigre, c'est le contraire de sucré. Donc, dans un blé, il y a de l'amidon de blé, amidon. L'amidon, il y a du sucre dedans. Et une fois que ça fait remonter, il y a moins de sucre, c'est devenu aigre. Et plus longtemps qu'on laisse le blé faire monter, plus le sucre est consommé. Et plus cette pâte devient aigre. Si on laisse très longtemps la fermentation, alors la pâte se transforme en levain, levain naturel, que la Torah elle appelle Seor. C'est le levain de la Torah. Personne mange du levain. Le levain, il n'est pas mangeable. Mais la Torah, quand même, elle a interdit. Et elle a dit spécialement, le levain, il est spécial, même s'il n'est pas mangeable. Si on le mange, on est chayav karet. Alors, à quoi ça sert du levain? Pourquoi les gens, ils ont du levain? Chametz et Seor. Le Seor, c'est un produit pour faciliter la fermentation d'une pâte. Quand on veut faire une pâte, on prend de la farine avec de l'eau, on mélange, on pétrit et on attend. Alors doucement, doucement, commence la fermentation. Quand on veut activer pour que ça va plus vite, on prend un peu de Seor. Le Seor, c'est du chametz concentré. C'est une pâte très aigre et il est très concentré. On prend un morceau du levain, on met dans la pâte, après ça active la fermentation et la pâte monte plus vite. Ça veut dire quoi? La pâte monte, fermentation, il y a une montation. La pâte gonfle. Pourquoi la pâte gonfle? Parce que quand le champignon, il mange le sucre, il dégage du gaz carbonique, de l'alcool et du gaz carbonique. Le gaz carbonique crée des bulles dans la pâte. Et parce qu'il y a des bulles, c'est pour ça que la pâte monte. C'est pour ça que quand on fait des chalotes, quand ça fermente, on prend un couteau, après 1 heure, 2 heures, on coupe la pâte, il tombe. Parce que le gaz qui est dedans, il est sorti. Mais la pâte est déjà chametz. Ça veut dire quoi? La pâte, les molécules de la pâte se sont transformées. Le sucre est parti, partiellement parti, et c'est devenu chametz. Même si après on libère le gaz carbonique, c'est déjà devenu chametz. Maintenant, quand on fabrique des matzot, on utilise aussi les 5 céréales et on utilise aussi de l'eau et on pétrit aussi. Et c'est pas du chametz. Pourquoi? Parce que l'activation de cette procédure de fermentation ne commence pas tout de suite. Ça prend un peu du temps et spécialement il faut que la pâte reste tranquille. On pétrit et on laisse la pâte. Et si on laisse dans une chambre qui a une chaleur, la chaleur favorise la fermentation. La matzah, on la fabrique dans une chambre qui est froide. Et une fois qu'on a pétri, fait une forme, on met dans le four. Depuis qu'on met la pâte dans le four, il peut plus fermenter. Parce que le feu, la grande chaleur tue ce champignon. Il tue le champignon et ça bloque complètement la fermentation. Le four bloque la fermentation à condition que ça n'a pas encore commencé à fermenter. Il y a aussi d'autres possibilités de bloquer la fermentation d'une pâte, de le mettre dans l'eau froide, comme la Mishnah nous dit. Tiltosh betsonen. Quand la pâte veut commencer à monter et on n'a pas encore de la place dans le four, comme dit la Mishnah, on met dans l'eau froide. L'eau froide, la pâte, quand il est froide, il ne peut pas faire monter, c'est bloqué. La fermentation se fait quand c'est ni froid et ni brûlant. Quand c'est tempéré, c'est un peu chaud, ça c'est le meilleur, la meilleure façon pour fermenter la pâte. C'est pour ça que tous les fabricants de matzot, ils font attention d'abord qu'ils ne tombent pas de l'eau sur le blé. Si l'eau est tombée sur le blé, après, ça commence à fermenter. Ça risque de devenir chametz. Les fabricants de matzot font très attention que l'eau ne tombe pas sur le blé. Et même avant la mouture, on a la coutume que pour que c'est plus facile à moudre, que ce sera plus facile à enlever les plissures du blé, normalement, on a la coutume de mouiller le blé. Donc, on prend de l'eau, on verse sur le blé, on laisse dedans, des fois une demi-heure, des fois une heure, etc. C'est mieux qu'il y ait une certaine humidité dans le blé. Et pendant ce processus, ça peut devenir chametz si on laisse trop longtemps. Si on moue tout de suite, ça va. Mais si on laisse trop longtemps, aujourd'hui, j'ai entendu qu'en France, c'est un peu différent de l'Allemagne. C'est normalement, j'ai entendu que le blé normal qu'on achète est mouillé avant la mouture. Une fois, j'ai entendu que c'est pas comme ça, c'est pas sûr, c'est peut-être. Aujourd'hui, j'ai entendu que c'est oui. Il faut craindre sur la farine que ça a été mouillé. Bon, mais je ne veux pas trancher cette question maintenant. Quelle est la mitzvot en France? Il faut l'analyser bien. Je ne suis pas venu pour trancher cette question. Il faut voir dans les moulins. Alors, en tout cas, pour les matzot, bien sûr, on ne moue pas la farine. On moue la farine, mais on ne mouille pas avant la mouture. Quand on a moulu, on fait attention qu'il y a pas, on tombe pas de l'eau dessus, sauf pendant qu'on veut pétrir la matzah. On pétrit la matzah tout de suite, avant qu'il termine 18 minutes, on met dans le four, et c'est terminé, ça peut plus devenir chametz. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est huit du chametz? Donc, c'est les cinq céréales qui étaient mouillées et qu'on a laissées tranquillement un certain temps, 18 minutes, une demi-heure, une heure, deux heures, trois heures, ça fait remonter, ça c'est du chametz. Dans ce chametz, dans cette fermentation, il y a des différents degrés. Il y a que le vrai chametz, ça gonflé et on voit même des failles, on voit des sedakim, on voit des trous dans la pâte. Ça, c'est du vrai chametz qu'on a chayav karet. Mais si c'est au début que la pâte blanchit, mais il n'y a pas encore ces trous, dans ce cas-là, ça s'appelle le milieu du stade de la fermentation. Ça s'appelle chametz nukcha. Si on va le cuire maintenant dans le four, on va manger. C'est pas très bon à manger. Si la matza est bonne, et le chametz qui est cuit est bonne. Si c'est au milieu de fermentation, c'est ni chaud ni froid, ni matzah, ni chametz. C'est au milieu, on appelle ça chametz nukcha. Chametz nukcha n'est pas assur mina Torah. C'est assur mina rabbanan. Il y a machlok et rablez et chachamim, nous allons pas rentrer dedans. C'est interdit de manger. On n'a même pas le droit mina rabbanan de le garder non plus. Mais c'est pas assur mina Torah. Plus forte raison n'est pas chayav karet pour ça. Alors donc, si ça fait remonter, c'est devenu du chametz. Et si ça fait remonter très, très beaucoup, ça devient du seor. Et les deux choses, la Torah, elle a interdit. Maintenant, il n'y a aucun produit dans le monde qui est chametz, sauf ces cinq produits mélangés avec de l'eau et fait remonter. Il n'existait pas d'autres chametz, rien de tout d'autre. Des fois, on entend des gens qui disent, moi, je vais vendre mes marmites. les marmites qu'on a cuites dedans du hametz. Je veux vendre la marmite. Les marmites, ils sont faits en métal. Le métal n'est pas hametz. Le métal n'est pas de cinq céréales. Il n'est pas hametz. Le goût qui est dedans, on n'a pas le droit de manger. Mais on a le droit de garder à la maison ce goût. Et il n'est pas vendable non plus. Mais on n'a pas besoin de vendre. L'interdiction de posséder du hametz, c'est du vrai hametz. C'est pas un goût dans une marmite. Donc, il n'y a pas de sens de vendre une marmite. Comme il n'y a pas de sens de vendre une maison. Il y a des expressions qu'on fait. Des fois, c'est écrit comme ça. On vend la maison. Les maisons aujourd'hui sont faites de béton et des pierres et du bois et du fer, du plastique et des produits, mais jamais pain d'épices. Il n'y a pas des maisons de pain d'épices. Ceux qui habitent dans une maison de pain d'épices, ils doivent le vendre ou le brûler. Mais nos maisons n'existaient pas. On ne vend pas une voiture. Une voiture n'est pas hametz. On peut éventuellement vendre du hametz dans la voiture, c'est autre chose. On vend du pain et le biscuit et les pâtes. On vend du hametz. Il n'y a rien d'autre que ces cinq céréales. Ça, c'est le yesod à savoir. Maintenant, ce hametz, la Torah nous l'a interdit de manger, de posséder, seulement à condition qu'il est dans un état mangeable. Hametz qui est mangeable, un hametz qui a tourné, un hametz qui est pas bon à manger. Personne mange. Personne mange ce hametz. C'est dénaturé. On a mélangé avec quelque chose qui abîme ou la chose elle-même, elle pourrit. Du pain moisi qui pourrit. C'est plus considéré comme un aliment. Il n'y a plus d'interdiction de le garder à la maison. Alors, c'est permis de garder. Alors, ça veut dire quoi, c'est permis de garder? À condition que c'est pas mangeable ni pour l'homme et ni pour les animaux. Même un animal qui a beaucoup de fois faim, un chien, les chiens, ils ont plus faim que les autres animaux. Parce que le chien ne court pas des animaux pour manger, ni il broute le gazon. Les moutons, ils broutent le gazon. Les chats, ils peuvent manger des souris. Mais les chiens, ni ils courent des animaux, ni ils broutent. Alors, il est obligé de chercher dans les poubelles quoi à manger. Alors, le chien, il a beaucoup de fois faim. Alors, si même le chien ne mange pas ce hametz parce qu'il est tellement pourri, ça s'appelle dans la Gemara Lora uila achilat kelef, c'est même pas mangeable pour un chien. Alors la Torah ne donne pas des issour de hametz. Donc selon la Torah, on peut posséder ce hametz. On a même le droit de manger ce hametz. Il n'y a pas d'interdiction. Ils ont interdit de manger ce hametz selon l'avis du Shulchan Aruch. L'Halakha Shulchan Aruch il est kimi de Rabbanan, on n'a pas le droit de manger du hametz qui est dénaturé, mais on a le droit de profiter du hametz qui n'est pas raoui la achila. Alors, où on trouve du hametz? On peut trouver du hametz. Le hametz, c'est le pain. C'est le gâteau, c'est les biscuits, ça c'est le vrai. Ou par exemple la bière d'Alsace. Comment fabrique-t-on la bière? On prend de l'orge, on met dedans de l'eau et ça fermente. Alors ça donne aussi de l'alcool. Alors la procédure d'alcool, chimiquement, est la même procédure que la fermentation du blé, ça veut dire. Quand on a des raisins, on écrase les raisins. Après, on laisse quelques jours, ça fermente et ça devient du vin. C'est le même champignon qui est sur le blé, qui se trouve sur les raisins. Et ce champignon, il rentre dans le jus des raisins et il mange le sucre dans le raisin, dans le jus de raisin, et cette transformation du sucre du raisin fabrique du gaz carbonique et fabrique de l'alcool. Et c'est pour ça aussi, dans un cuve de vin, pendant la transformation, il y a du gaz, comme dans la farine, il y a du gaz. Là-bas aussi, il y a du gaz, et ça transforme en alcool. Dans la pâte aussi, ça fabrique d'alcool. C'est le même processus. Et c'est pour ça que le vin, il est moins sucré que le jus de raisin. Quand on a du jus de raisin, tout le sucre du raisin se trouve dedans. Mais une fois qu'il est devenu du vin, il est moins sucré, parce qu'une partie du sucre est partie. Et le vin, il est encore sucré, mais si on continue encore plus trop longtemps, ça devient du vinaigre. Le vin devient du vinaigre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi du vinaigre? Il y a tellement peu de sucre dans ce vin que c'est dégoûtant de boire. C'est pour ça le vinaigre, il s'appelle chometz. Le même mot que chametz. Seulement, ce qui concerne le Pessah, la Torah n'a pas interdit le vin. Elle interdit ni le vin, elle interdit ni le vinaigre, elle interdit seulement les cinq céréales qui sont devenues chametz. Ça, c'est le inyan de, c'est ça que la Torah, elle interdit. Maintenant, si donc c'est dénaturé, on a dit, si c'est dénaturé le chametz, la Torah ne l'a pas interdit. Maintenant, la bière est du vrai chametz. C'est de l'orge qui a l'orge qui est dans de l'eau, et le mélange de l'eau avec l'orge, il crée une fermentation. Donc la bière, c'est du vrai chametz et c'est mangeable. Les gens, ils boivent ça. Manger et boire, c'est la même chose. Manger et boire, c'est la même chose. Donc la bière, c'est du vrai chametz. Ceux qui boivent du bière, Pessah, à ce moment, on a réaf karet. La même chose, le whisky ou le vodka qui vient de grains. Le whisky est quoi? On prend du blé ou de l'orge malté, ou du blé malté. Malté, ça veut dire que ça commence déjà à pousser, que c'est devenu mouillé. Le blé ou l'orge qui est devenu mouillé et ça commence à germer. Il y a un germe qui sort. Quand il y a un germe qui sort, c'est déjà du chametz. Alors le whisky, il est fabriqué ou du blé ou de l'orge mélangé avec de l'eau ou avec de l'orge malté. C'est du vrai, vrai chametz. Donc ceux qui possèdent une bouteille de whisky, je parle pas, il y a certains whisky du maïs en Amérique, il paraît. On peut faire peut-être du whisky avec maïs, pur maïs. Alors ça, c'est pas du chametz. Maïs n'est pas du chametz. Mais si c'est avec des cinq céréales, c'est du chametz. Ainsi, le vodka qui vient de Russie, il y a deux sortes de vodka. Il y a vodka de grain qui est fait de blé ou de l'orge. Il y a le vodka de pommes de terre. Si c'est des pommes de terre, c'est pas chametz. Si c'est des pures pommes de terre, pure pomme de terre, son mélange de cinq céréales, c'est pas du chametz. Mais le vodka, le bon vodka, en tout cas le vodka qu'on vend ici en Europe, en principe c'est de grains. Il est fabriqué en Russie ou en Finlande ou n'importe où, ça change pas. Donc ça c'est du vrai chametz. Cela il faut pas boire et ne faut pas posséder. C'est du vrai chametz. Maintenant on peut trouver des dérivés de ces cinq céréales qui sont devenues chametz, on peut le trouver dans beaucoup de produits. On peut faire du glucose qui est pris du blé. Le blé fabrique du sucre. On peut faire du glucose. Glucose qui vient du blé, ça peut être du chametz. Donc, on ne boit pas, on ne mange pas un produit où il y a du glucose, du blé dedans. Si le glucose vient pas du blé, vient du maïs, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Pour savoir d'où il vient, ça, il faut qu'il y ait des rabbanim, il y a des chimistes qui doivent surveiller, qui doivent dire d'où ça vient. Et ça peut changer d'une année à l'autre, d'un endroit à l'autre. On ne peut pas donner ici une halakha pour tous les pays, pour tous les temps. Ça dépend s'il y a beaucoup de maïs, s'il y a beaucoup de blé, s'il y a un surplus. Ça, c'est aujourd'hui, c'est devenu l'approvisionnement des aliments. C'est pas comme à l'époque de nos grands-parents, arrière-grands-parents, où on consommait les produits du village, le produit de la région, on connaissait les éleveurs, et les produits, ils étaient purs normalement, pas grand mélange entre beaucoup de produits. De nos jours, la mondialisation a fait que les produits viennent d'un bout du monde à l'autre bout du monde, et tout est composé. On prend n'importe quel biscuit ou n'importe quel produit, un bonbon, il y a dedans 30 produits dedans, et le simple hyper sont latins. Et on ne sait pas qu'est-ce que c'est, comment c'est composé. Aujourd'hui, pour comprendre qu'est-ce qu'il est, en quoi c'est composé, tel et tel produit manufacturé, il faut être un peu un chimiste, il faut être un raf qui va dans les usines, qui regarde, qui s'y comprend. Sinon, on ne comprend rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais tout ça, ça concerne un produit qui est bon pour manger. Il y a des produits qui est bon pour manger, où il y a du glucose qui vient du blé, où il y a un peu d'amidon de blé dedans. Ça peut être du chametz. Alors, on ne consomme pas un aliment, il y a des amidons du blé dedans. Mais s'il y aura un produit qui n'est pas mangeable, tel qu'il va avoir du savon, du shampoing, de cirage, des chaussures, j'en sais rien, et à 100 000 produits aujourd'hui, où il peut avoir éventuellement un dérivé qui vient du chametz, peut-être, je sais pas, disons que oui, mais c'est des cirages, des chaussures. Mais ça, c'est un produit qu'on mange pas, on peut pas manger. Alors, dans ce cas-là, on peut les garder à la maison. On peut le s'en servir aussi, seulement il faut pas les manger. Bon, vous allez me dire, on a dit dans le shiur, il faut pas manger des cirages de chaussures, j'ai pas besoin de ce shiur, parce que de toute façon, je le mange pas. En effet, c'est pour ça que je le dis même pas. On n'a pas le droit de manger ce qui n'est pas mangeable, mais qui mange ce qui est pas mangeable? Ça peut être, hein, des fois exceptionnellement, quelqu'un a besoin de manger quelque chose qu'il peut manger exceptionnellement. Dans ce cas-là, s'il n'est pas vraiment malade, il a un petit peu mal, il veut manger un produit, un médicament qui est dégoûtant, mais il a besoin de manger. Alors, si on est vraiment malade, on a le droit de manger. Plus forte raison si on n'a pas d'autres produits. Si on n'est pas vraiment malade, un peu malade, on veut manger un produit qui n'est pas mangeable, mais il y a du chametz dedans, ça, on s'abstient. Mais pour s'en servir, il n'y a pas de problème. On a le droit d'utiliser du chametz qui est dénaturé, qui n'est pas mangeable pour l'homme ou pour le chien, à condition qu'on a dénaturé le chametz avant Pessah. Si c'est pendant Pessah, ça ne marche pas. Par exemple, quoi? Quelqu'un, il a du pain. Et avant Pessah, il a brûlé le pain et le pain est devenu une braise, est devenu du charbon. Eh bien, tu as le droit de le garder à la maison. C'est du charbon, c'est plus du pain. Mais si quelqu'un, il avait du pain, il a laissé rentrer le Pessah, et quand le Pessah il est rentré, il y a déjà une interdiction du chametz dessus, et maintenant il va brûler le pain, il va rendre au charbon, le charbon reste toujours interdit de profiter. Parce que même si maintenant le charbon n'est pas mangeable, mais à la rentrée de Pessah, le pain était mangeable, il est devenu interdit de profiter. Alors même si tu vas le rendre au charbon, tu pourras pas utiliser ce charbon comme combustible, parce que le produit, il est déjà interdit. Mais si avant Pessah, je le rends au charbon, alors ça c'est permis. ou si j'ai des chametz avant Pessah et je verse dessus de l'eau de Javel et ça rend la chametz pas consommable ni pour l'homme ni pour le chien, alors cette chametz, je peux garder à la maison. Donc tous les produits qui ne sont pas mangeables, il n'y a rien à craindre. Pas besoin de se casser la tête, il n'y a rien de vendre. C'est, on ne mange pas. On risque même pas de manger, on n'a pas besoin de les cacher. On a le droit de les utiliser même. Sauf, il faut pas les manger, c'est tout. Mais du vrai chametz, c'est pas seulement qu'on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter non plus. Il y a une interdiction de manger du chametz. Le chametz qui est mangeable, il est interdit d'être mangé. Il y a aussi une interdiction de profiter. Ça veut dire quoi? Je peux pas donner à manger à mes animaux. Si j'ai une vache, j'ai des poules, j'ai un poisson rouge, n'importe quel animal, j'ai un chien, un chat, donner à manger un chien, un chat, qu'on achète au magasin, on achète des carrefours de Tanigo, je sais pas quoi, où il y a de la viande, il y a des os, où il y a des pâtes, où il y a des pâtes, où il y a de la charmetz dedans, eh ben, j'ai pas le droit de procéder. C'est mangeable pour le chien, on achète pour le chien. Peut-être c'est mangeable pour l'homme aussi, je sais pas. En tout cas, c'est mangeable pour le chien, donc il y a une interdiction de posséder. Et si on la possède et on le donne au chien, on profite. Ça, c'est Assur min HaTorah. On n'a pas le droit de profiter du chametz. On n'a pas le droit de vendre le chametz pendant Pessah à un goy. On n'a pas le droit de donner le cadeau, le chametz. C'est aussi un profit. Donner un cadeau, ça fait plaisir. Et l'autre, il te remercie. Ça aussi, ça s'appelle profiter. Avant Pessah, je peux donner cadeau. Avant que le Pessah, il rentre, j'ai le droit de donner cadeau. J'ai le droit de vendre. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, l'interdiction de manger chametz et de posséder chametz commence à quel moment? Alors, la Torah nous parle Shivat Yamim, 7 jours. Lo yimatze sor, lo yimatze bebatechem. 7 jours, j'ai pas le droit de posséder chametz et ce or. Et le Erev Pessah, l'après-midi, à partir de Chatzot, aussi on n'a pas le droit de manger, la Torah interdit. Biyom Arishon, Tashbit, ou Seor, mi Batechem. Biyom Arishon, ça veut dire le jour qui précède le Pessah. Tashbit, ou le Seor, mi Batechem. Il y a mitzvah de débarrasser le Chametz. C'est l'après-midi. C'est déjà une interdiction de manger Chametz et de posséder Chametz. C'est déjà interdit. C'est interdit, mina Torah, de manger le Chametz Erev Pessah. On n'est pas Chayav Karet. Les sourds sont un peu moins graves, mais c'est un sourd, mais la Torah de manger du chametz la veille de Pessah à partir du midi. Mais comme pas tous les jours, ils savent exactement quand c'est midi, si c'est 5 minutes avant midi ou 5 minutes après midi, la Chachamim, ils ont interdit de manger le chametz 2 heures avant qu'il arrive le midi. Ça veut dire, midi, c'est le milieu de la journée. Chatzot, dans la Torah, c'est le milieu de la journée. C'est pas 12 heures sur la montre, ce que nous appelons 12 heures. On coupe la journée en deux, depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. On coupe la journée en deux. Et la moitié s'appelle Chatzot. Après Chatzot, c'est un sourd min HaTorah de manger. Avant Chatzot, 2 heures avant Chatzot, on n'a plus le droit de manger le chametz. Première heure, on peut encore profiter. Et 1 heure avant Chatzot, on n'a pas ni droit de manger ni de profiter. Et 2 heures avant, on n'a plus le droit de manger, mais on a le droit de profiter. Et 3 heures avant, on a le droit de manger et de profiter. Pour ce là, aujourd'hui, cette semaine-là, ce Pessah, la veille de Pessah, il tombe Shabbat. Donc, l'interdiction de chametz commence au milieu du Shabbat. On coupe le Shabbat en deux, Chatzot, partir de Chatzot, il est interdit de manger, profiter du Chametz. Et 2 heures avant, aussi, on n'a plus le droit de manger le Chametz. Mais tôt le matin, si Shabbat matin, on se lève à 7 heures, on fait la tfila, on termine la tfila à 8 heures, 9 heures, on peut encore manger. Dans le calendrier, il est marqué combien, jusqu'à dans, il y a tous les calendriers, partout il est marqué, jusqu'à quelle heure on a le droit de manger le Chametz. Après, on n'a plus le droit de manger le Chametz. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le Chametz? Alors, normalement, la veille de Pessah, le Chametz, il faut se débarrasser de lui. Il y a une mitzvah de Ach bayom rishon tashbitu seor mibatechem. On débarrasse le Chametz de la maison. Comment on débarrasse le Chametz? Soit on le détruit. Comment on détruit le Chametz? On peut l'éparpiller et le jeter dans le vent, dans la rue, dans un champ qui nous appartient pas. On émiette et on le jette dans, ça s'appelle t'as détruit. On peut l'émietter et jeter dans le fleuve. On peut le brûler. On peut aussi l'émietter et mettre dans la toilette et on tire la chasse. Et ça part, ça s'appelle t'as détruit ton chametz. Alors, normalement, on a la coutume de brûler le chametz la veille de Pessah. Maintenant, cette année, ça tombe Shabbat. On ne peut pas brûler. D'accord, on brûle pas. On se débarrasse du Chametz d'une autre manière. Alors, normalement, la veille de Pessah, on peut aussi la mettre dans la rue, dans une poubelle. Dans ce sac à poubelle, on met dans la rue et on rend Hefker. Mais Shabbat, c'est un peu difficile de mettre dans la rue. On peut pas mettre dans la rue. Alors, on peut mettre la poubelle en bas, dans le local, peut-être. Mais on est un peu associé encore à cet endroit. Donc, ça n'a pas vraiment à 100% sorti de notre domaine. Alors, mieux vaut que la challah qu'on a mangée vendredi soir, ou éventuellement le matin, on a encore mangé des challahs, alors que ces challahs-là, on les émiette et on les jette dans la toilette, ça c'est permis, Shabbat, et on tire, à 10 heures le matin, on tire, et c'est parti, on est immakeb, la mitzvah, tashbito. Maintenant aussi, il faut faire le bitul chametz. Bitul chametz, comme chaque Erev Yom Tov, avant qu'il arrive 1 heure avant Chatzot, il faut faire le bitul chametz, et on dit dans le langage qu'on comprend. Le langage de la Gemara, de Shulchan Aruch, c'est en araméen, kol chamira, Vachamia, de Ike Birshuti, Chamira, c'est du Chametz, et Chamia, c'est du levain, toute pâte ou levain, de Ike Birshuti, qui se trouve dans mon domaine, de Chazit de l'Ochaziti, que je l'aurais vu, que je l'aurais pas vu, de Biarti de l'Obiarti, que j'ai essayé de détruire ou c'est pas détruit, le Heve Batel, le Hefker, que Afka de Ara. Ils sont annulés à mes yeux et considérés comme la poussière de la terre. Je le rends Hefker, c'est plus à moi. Ce qui veut prendre, il peut prendre. Donc, tout le Chametz, je le jette et le goy peut le prendre, les chiens peuvent le manger. Je ne veux plus avoir le Chametz. Ça, c'est le bitul Chametz. Ça, c'est obligé. En plus de faire la destruction des Chametz et le bitul Chametz, il faut chercher le chametz. Il faut faire bidikat chametz. Ils ont dit, tu veux détruire ton chametz, mais tu sais même pas qu'est-ce que tu as. Vas-y, vérifie. Tu dois vérifier dans la maison si tu as des chametz. C'est ce chametz qu'il faut détruire. Alors, où je dois vérifier le chametz? Là où j'ai la coutume de faire entrer du chametz. Kol makom, shemachnisim behem chametz. Tous les lieux. Si je travaille au bureau, si j'ai la coutume de manger dans mon bureau, eh ben, il faut que je vérifie. Shabbat, je peux pas vérifier. Faut vérifier, bien sûr, vendredi. Ou jeudi soir, si je suis dans un bureau. Dans les endroits, on a la coutume de mettre du chametz dans une voiture. Nous avons tous la coutume, en principe. On met du pain, on met du gâteau, des fois on mange. On voyage, nous, notre femme, nos enfants, à 13 ans, on a des gâteaux, on le mange, donc la voiture doit être vérifiée. Si on a une cave, si on a la coutume dans la cave, des fois de rentrer au milieu de repas pour chercher quelque chose, peut-être on a un sandwich dans la main, dans ce cas-là, il faut aussi vérifier le garage, le bureau, là où on met du chametz. Là où on met pas du chametz, on n'a pas besoin de vérifier. Ça, c'est la mitzvah de Bedikat Chametz. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la chametz qu'on a trouvée? Qu'est-ce qu'on fait chametz? On a une bouteille de whisky. On a des gâteaux. Qu'est-ce qu'on fait? On peut le manger avant Pessah. Mais si on les a pas mangés, mais on n'a pas le droit d'être propriétaire. Il faut plus être propriétaire. Alors, il y a un état de le donner cadeau au goy ou de vendre la chametz au goy. Au Shulchan Aruch, si on veut faire attention à ce qui est marqué noir sur blanc dans le Shulchan Aruch, dans ce cas-là, il faut le faire sortir de la maison et le donner au goy pour que le goy l'amène chez lui à la maison. Je lui fais cadeau. Même si après le goy, après Pessah, il veut me le redonner, c'est pas grave. J'ai pas le droit de lui dire, j'attends que vous me rendez. Ça, on n'a pas le droit de dire. Je vous vends, mais je voudrais que vous me le vendez après. On n'a pas le droit de dire. Je vous vends. Si après vous voulez me revendre, c'est autre chose. Si vous voulez après me redonner cadeau, c'est votre problème. Moi, je l'exige pas. Alors, il faut, Alpi Shulchan Aruch, il faut lui donner le chametz. Il faut le faire sortir de la maison pour que le goy fasse sortir de la maison. Il l'amène chez lui, soit cadeau, soit vendu. Maintenant, la coutume, elle n'est pas comme ça. La coutume n'est pas comme ça. On garde à la maison, on vend quand même le chametz. Cette pratique, elle est discutée, mais je voudrais pas rentrer dedans. Chez nous, quand j'étais enfant, j'étais à Zurich. Le Rav de la ville, c'était un grand Rav, il s'appelait Rav Reich. Il a dit que cette manière de vendre de chametz, qui est le chametz qui reste dans la maison du juif, c'est pas si glatte. Il déconseille pour les magasins qui ont une grande perte d'argent, c'est une autre chose, mais pour le simple juif qui n'a pas une grande quantité, quand on est venu chez lui vendre la chametz, il a dit, si vous avez des vrais chametz, je vous déconseille de jeter le chametz. Donnez le cadeau au goy, prenez votre femme de ménage, donnez-lui des bouteilles de whisky, donnez-lui les biscuits, le vodka qui reste. Ne le vendez pas. Ou vendez au goy d'une vente définitive. Après, s'il vous revend, faites-le tout seul. Mais si vous n'avez pas du vrai chametz, des choses qui ne sont pas du vrai chametz, qu'en vrai principe, on a le droit de garder, mais on a un peu trop mal, alors on le vend chez lui. Comme ça, il avait la coutume de dire dans sa drasha de Shabbat Agadol. Et moi, je répète aussi ça. C'est un bon conseil. Moi, personnellement, j'ai aussi jamais vendu du vrai chametz. Je donne à la Goya. Le chametz, le vodka, le whisky. Si elle veut me redonner, elle me redonne. Moi, je demande rien du tout. Et si on a maintenant le médicament, en principe, le médicament, 98% des médicaments sont pas chametz. Pourquoi? Souvent, ils n'ont pas de chametz dedans. Même quand ils ont de chametz dedans, la 98% des médicaments sont dégoûtants, sont pas, s'appellent pas mangeables. Personne ne le mange. On le avale, la gélule ou le cachet. On l'avale pour le médicament, mais on mange pas ça. Donc, Alpidine, on a le droit de les garder chez soi à la maison. Sauf s'il y a un sirop où il y a de l'alcool dedans et qui est agréable. Il y a des sirops contre le toux. Il y a des différents sirops qui sont agréables à manger. Et s'il y a du chametz dedans, cela, ça n'a pas la peine de garder à la maison. On peut donner à la femme du ménage, vous faites ça cadeau. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez rien à faire après, Pessah, si vous voulez me redonner, vous faites comme vous voulez. En principe, c'est à vous. Vous pouvez le prendre pour vous, vos enfants, vos enfants. C'est votre affaire. Souvent, la Goya après, Pessah, elle vient, elle le redonne quand même. C'est permis, là, il n'y a pas de problème. Alors, mais ça, c'est du sirop, quelque chose qui est bien. Le reste, on peut garder à la maison. On peut garder à la maison, même quand il est marqué un aspirine avec amidon du blé. Si c'est amidon du maïs, c'est rien. Disons qu'il y a un cachet avec amidon du blé. Ça peut être amidon du blé, des fois c'est devenu chametz. C'est pas sûr, mais des fois c'est devenu chametz. Mais c'est amer parce qu'on met dedans un produit qui rend inconsommable à titre d'aliment. Ça se mange seulement à titre de médicament. Ça s'appelle dans le Shulchan Aruch du triac. Quand un machaber, il parle du triac, c'est un produit, un médicament. On mélange dedans un peu de chametz, mais le produit amer, il rend le chametz inconsommable. Ça, c'est le triac. Le triac, on peut garder à la maison. Seulement, si on n'est pas vraiment malade, il ne faut pas le manger. Mais il faut pas le manger, mais on a le droit de le garder à la maison. Donc, ce sont les sirops qui peuvent poser problème. Mais les autres choses, on n'a pas besoin de se casser la tête. Maintenant, il y a une interdiction que si on a gardé du chametz à la maison et on n'a pas vu, mais c'était à la maison, on n'a rien vu. Et après Pessah, on rencontre, aïe, chassé shalom, on a oublié ici, il y a des biscuits. Oh, il y en a, oh là là, j'ai 1 kilo de biscuits, j'ai même pas enlevé avant Pessah. C'est resté à la maison. Alors, on n'a pas le droit de le manger, on n'a pas le droit de le consommer. Chametz, chez Avar Alava Pessah, si c'est du vrai chametz, du biscuit, du pain, du vrai chametz, Avar Alava Pessah, c'est tombé. Le Pessah, il est passé, était chez toi à la maison. Afilohini ou beshogeg, ou même s'il a oublié beshogeg, on a oublié. Au Beones, même un cas de force majeure, quelqu'un, il est tombé malade la veille de Pessah, il a Covid, il est obligé d'aller à l'hôpital. Baruch HaShem, 8 jours après, il est guéri, il revient à la maison. Mais il n'était pas capable d'enlever le chametz, c'est pas sa faute. Quand même, c'est interdit de manger, de profiter. Faut le brûler après. Pourquoi? Parce que Chacham, ils avaient peur des malins. Ils ont dit, si nous allons faire un paragraphe qui dit que si tu as oublié ou si c'est un cas de force majeure que t'es pas enlevé, tu peux consommer ton chametz, les gens ils vont tous trouver, pas tous, certains vont trouver la moyen. On garde le chametz à la maison et après Pessah, tu viens chez lui, tu te fais inviter, il te sert des gâteaux, tu dis, hey, comment vous me servez des gâteaux le lendemain de Pessah? Ah oui, non, mais ce gâteau-là, j'ai pas vu, j'étais oublié. Je voulais l'enlever, j'avais un accident, j'étais obligé d'amener l'enfant à l'hôpital et je pouvais. Chacun, il va se trouver son petite ruse. Donc, ils ont dit, ben, beshogeg, ben, mezit, on n'a pas le droit de consommer. Et même si on a fait le bitoul, chametz, pashtout, mais si on a fait le bitoul, et c'est honnête, on peut profiter, pas manger, on peut profiter. Si c'est pas du vrai chametz, c'est un petit peu un petit rachat dans ce cas-là, après Pessah, on a le droit de l'utiliser. Alors, maintenant nous allons voir une deuxième partie. On a parlé donc de chametz. On a parlé un petit peu de la matzah. Maintenant, il y a Yom Tov, bien sûr. Mitzvah de Yom Tov. Chez nous, Yom Tov, ça c'est fait. On va festoyer. Il y a une partie, malheureusement, que nous n'allons pas faire aujourd'hui. Faire le Coran Pessah, monter Yerushalayim, la Mitzvah de Aliyat HaRegel, rentrer au Beit HaMikdash, égorger le Coran Pessah, manger le Coran Pessah. On souhaite tout ça dans la prière, dans la Haggadah, Venu Hashem, Min HaZvachim, Min HaPsachim, Asher Yagi Adamam, Ça, on souhaite que peut-être il y aura un miracle qu'avant Pessah. Il y aura le Beit HaMikdash, on va encore monter, c'est possible. Sinon, cette partie, nous ne faisons pas. Mais les autres mitzvot, nous faisons. Donc, il y a la mitzvah du Seder. Donc, dans la mitzvah du Seder, nous avons la mitzvah de manger de la matzah. Nous avons la mitzvah de boire les 4 coupes. On a mitzvah de manger le maror. Le maror, ce sont des salades amères. Et manger de la matzah. Combien de matzah il faut manger? Les minimums de ce qu'on est obligé de manger, c'est un kezaït. Kezaït matzah. Kezaït, ça veut dire le volume d'une olive. De quel genre d'olive? Différents calibres d'olives. Aujourd'hui, les olives sont un peu petites, les olives. Combien il faut manger? Alors, d'après un avis, le volume d'une olive qu'il faut manger, c'est la moitié d'un œuf. Après un autre avis, c'est le tiers d'un œuf. Bon, on ne sait pas exactement les œufs non plus. Les œufs, il y a des grandes, il y a des moyens, il y a des petits. Dans la Mishnah, on nous parle des moyens. Un œuf moyen. Mais qu'est-ce que c'est l'œuf moyen de la Mishnah? On ne sait pas exactement combien c'est l'œuf moyen. Alors, on mange un peu plus. On prend une matzah. On s'imagine, si j'aurais écrasé la matzah, j'aurais fait de poudre avec, je mangerais le volume d'une demi-œuf ou un peu plus. Un demi-œuf. Comme ça c'est kezaït matzah. Ça, c'est kezaït matzah. Et l'olive, le kezaït matzah. Donc, l'olive, c'est probablement l'olive à l'époque de la Gemara, il était 2 ou 3 fois plus grand que nos olives que nous avons. Ça, c'est, il faut manger. Ça, c'est, on mange pour la matzah. Maror aussi, on mange un kezaït. Maintenant, il y a une mitzvah de manger un kezaït pour la matzah. Après, mangeons un kezaït pour la hikoman. Et si on a 2 matzot, Erev Pessah, la veille de Pessah, on a le premier matzah, le deuxième matzah, si on peut manger un kezaï de cela, kezaï de kezaï, dans ce cas, j'ai encore un hidour mitzvah. Mais alpidine, ça suffit de manger un kezaï. Et on boit 4 coupes. Les 4 coupes doivent être soit du vin, soit des jus de raisin. Les deux, c'est kasher. Alors, combien il faut boire? À peu près 1 décilitre. Il y en a qui disent 1,5 décilitre. Il y en a qui disent 1 décilitre. La coupe doit contenir 1 décilitre ou un peu moins qu'un décilitre. Ou peut-être 1,5 décilitre. Sur ça, il y a des différents avis. Et on boit la majorité de cette coupe. On a bu la majorité de cette coupe. On est yotzé, on boit 4 coupes. Un pour le kiddush. La deuxième coupe, après qu'on a raconté Avadimayinu, toute la Haggadah. On boit la deuxième coupe, après on mange le matzah le maror, on mange le repas, on chante le birkat hamazon, on boit la troisième coupe, et après on chante la halel jusqu'à la fin, on boit la quatrième coupe. Ça, c'est des choses connues. Il y a des haggadot, tous les peuples juifs, ils ont des haggadot, et cette année, Moshe Uzan, ceux qui organisent ce soir là, le Zoom, il a lui et son équipe, ils ont fait une merveilleuse Haggadah, si vous l'avez vu. Haggadah Shel Shalshelet, très très bien fait. Alors, à consommer sans modération. Donc, on fait le Seder. Maintenant, il y a encore des préparatifs. Pour manger, il faut manger Pessah. Mais qu'est-ce qu'on mange? Des produits qui sont cachers. Très bien. On a expliqué qu'est-ce que c'est un produit cachère. Mais pour manger les produits cachères de Pessah, il faut encore les cuire. Et pour les cuire, il faut avoir des marmites. Alors, les marmites, ils doivent être cachères le Pessah. Ça veut dire quoi, les marmites, ils doivent être cachères le Pessah? C'est que si j'ai cuit dans une marmite un produit de Hametz, alors, il y a un peu de goût de chametz qui risque de rentrer, de rester collé, de risque de rentrer dans la matière de la marmite. Et c'est pour ça, si on veut utiliser pendant Pessah une marmite qu'on a utilisée pendant l'année, il faut le cachériser. Comme par hasard, c'est il y a des cachérisés se trouve dans la parashat Hashavua, dans parashat Tzav, la parashat des 7 semaines. Il est marqué, la Torah parle vis-à-vis de Korbanot, que si on a cuit un korban, un khatat, dans une marmite en argile, eh ben, il faut casser cette argile. Si on a cuit dans une marmite en cuivre, faut cachériser la marmite en cuivre. Là-bas, la Torah parle pour des korbanot, mais c'est pour le Pessah. Ce qui concerne pour le Pessah, tous les ustensiles dans lesquels on a cuit du chametz ou qui étaient en contact avec du chametz à chaud, il faut les cachériser. Comment on cachérise? On fait passer dans l'eau chaude de la manière comme la chametz est rentrée. Si j'ai une marmite sur le feu où j'ai cuit des pâtes, je voudrais cachériser cette marmite. Je le remplis avec de l'eau bouillante. Je laisse déborder et la marmite est cachérisée. Si on a des assiettes qui sont jamais sur le feu, mais on met de la soupe chaude dedans, eh bien, dans ce cas-là, je veux utiliser cette assiette, je verse de l'eau bouillante dessus et je le cachérise. Tous les ustensiles sont cachérisés de la manière comme le chametz est rentré dedans. Ça s'appelle que bol o kach bol to. Mais avant qu'on cachérise une marmite, il faut le nettoyer pour qu'il n'y a pas de chametz qui est collé. De nos jours, c'est à la halakhot de kashrout sont facilités grâce aux produits que nous avons de nos jours. Nos marmites, ils sont plus propres qu'à l'époque de nos arrière-grands-parents. Ils sont en inox, flambant, il n'y a pas tellement de trous. Autrefois, c'était beaucoup plus compliqué. La pâte qui restait collée. Aujourd'hui, elle reste très peu collée. C'est facile à cachériser. Mais, en plus, souvent, on a Baruch Hashem, et la majorité des gens, Baruch Hashem, ils sont assez riches pour avoir une vaisselle et Chot Pessah. On n'a même pas besoin de tous les marmitim que nous utilisons pendant l'année. On a une vaisselle de Pessah. Mais ceux qui n'ont pas de vaisselle de Pessah, ce qui est tout à fait possible, pas chacun, il a la possibilité. Ou même si on a une vaisselle de Pessah, on n'a pas tout. Il y a certaines choses qu'on n'a pas, qu'on voudrait utiliser dans ce cas-là. Il faut les cachériser, on nettoie d'abord. Après, en principe, c'est on fait passer avec de l'eau bouillante. Normalement, on attend 24 heures après la dernière utilisation du chametz. On le fait passer dans l'eau bouillante. Ça, c'est en gros. Après, il y a des détails, il y a beaucoup de détails dans ce inyanim. En gros, c'est ça, la halakha. Ça, c'est pour la cachérisation.
Oui, bonjour, Rav. Bonsoir. On aimerait savoir comment réaliser les séoudotes de ce Shabbat à venir, comme on peut pas posséder, enfin c'est un peu compliqué. Alors on aimerait savoir comment le Rav il nous conseille de faire.
Soit vous enlevez tout chametz avant Shabbat et vous mangez vendredi soir pas du chametz, vous mangez ce qu'on appelle matzah ashira. Étant donné que vous appelez Ben Amou, donc je suppose que vous venez pas de Varsovie. Donc, nous, sur le Sfaradim, on a la coutume de manger sans problème Matzah Ashira pendant tout Erev Pessah. Alors, donc, vous pouvez manger vendredi soir en repas avec du Matzah Ashira si vous avez. Alors, pour Matzah Ashira, je vais dire un petit mot. C'est quoi Matzah Ashira? Une matzah riche. C'est-à-dire quoi une matzah riche? Pour qu'une matzah sera cachère, il faut qu'elle est composée par de la farine avec de l'eau. Parce que les pauvres, ils mangent le pain de la misère, ils mangent l'echem oni, le pain de la misère. C'est des farines avec de l'eau. Mais si on fait de la farine avec du jus de raisin, ou avec du jus de pomme, avec du jus de fruits, alors ça, c'est pas l'echem oni, ça c'est l'echem ashir, c'est le pain de riche. Alors avec le pain de riche, on ne peut pas faire la mitzvah de matzah. Maintenant, il nous faut ici deux introductions pour comprendre ce que je vais dire. La veille de Pessah, Chachamim, ils ont interdit de manger de la matzah. C'est interdit midrabanan. Mange la veille de Pessah. Après-midi de chametz asur min Torah, mange de matin les premières heures où chametz est permis, mais chacham ils ont interdit de manger de la matzah. Pourquoi ils ont interdit? Afin de manger de la matzah avec appétit. Si on mangeait à Pessah déjà de la matzah, la Gemara compare ça comme quelqu'un qui aurait vécu avec sa fiancée avant le mariage. Le mariage, c'est la nuit du Seder. Et on touche pas la fiancée avant le mariage. On mange pas de la matzah la veille du Pessah. Enfin, ils ont interdit. Mais la matzah Ashira, comme la matzah qui était fabriquée avec du jus de fruits, on peut pas faire la mitzvah avec matzah Ashira. C'est pour ça, ça s'est permis de manger la veille de Pessah. Maintenant, les Ashkenazim n'ont pas la coutume pendant Pessah de manger matzah Ashira. Pour quelles raisons ils n'ont pas la coutume? Parce que quand on fabrique matzah Ashira, il y a une halakha qu'il faut faire attention. Quand tu fais matzah Ashira, il faut la faire sans eau. Il n'y a aucun eau, il n'y a que du jus de fruits. Tu veux pétrir la farine avec du jus de raisin, pas de problème, mais que du jus de raisin, pas avec de l'eau. Parce que si on mélange de l'eau plus jus de raisin plus la farine, dans ce cas-là, le jus de raisin fait que l'eau, la fermentation va plus vite. Le jus de raisin va favoriser que la fermentation se passe plus vite. C'est pour ça, la halakha dit Shulchan Aruch, on peut manger pendant Pessah Matzah Shira, à condition qu'il n'y a pas du tout de l'eau. Mais s'il y a de l'eau, on n'a pas le droit de manger Matzah Shira. Maintenant, il y avait malheureusement des tricheurs. On achetait chez un vendeur de jus de fruits et on croyait que c'est du jus de fruits pur. Mais en vérité, avait mélangé de l'eau. Alors, si on achète du jus de pomme où c'est mélangé avec de l'eau, on fabrique une matzah, on n'a pas le droit de la manger pendant Pessah, de peur que c'est devenu chametz. Et comme il y avait des tricheurs, les Ashkenazim, ils ont pris le minhag qu'on ne mange pas matzah Ashira. De nos jours, les Sfaradim, ils ont le droit de manger matzah Ashira, mais à condition qu'on fait attention. On achète seulement chez des fabricants de matzah Ashira qui connaissent cette halakha, qui sont stricts et qui se laissent pas berner. Par exemple, jus de pomme composé. Il y a du jus de pomme que d'abord on enlève l'eau et après on remet de l'eau dedans. Avec ce jus de pomme, on n'a pas le droit de fabriquer matzah Ashira. Il faut que ce sera pur jus de fruits. Il faut m'en acheter seulement chez un bon hercher. Un recherche sur des gens sérieux qu'on peut s'appuyer, que c'était que du jus de fruits. Maintenant, pour revenir, si, maintenant, pour Shabbat, une des possibilités, si vous voulez pas vous casser la tête avec du chametz, vendredi soir et Shabbat matin, et vous voulez plus avoir du chametz à la maison, vous voulez avoir que du matzah à la maison, dans ce cas-là, vous pouvez faire vendredi soir un motzi sur la matzah Shira, et Shabbat matin aussi, il n'y a pas de problème, Matzah Ashira, c'est permis de manger la veille de Pessah. Maintenant, si vous voulez manger de challah, vous pouvez manger la challah aussi, ou faites des petits pains de hamotzi, qui est à grandeur de neuf, et pour vous, pour votre femme, vous avez un, deux, trois enfants, je ne sais pas, alors vous faites pour chacun un petit challah pour vendredi soir, un petit challah pour Shabbat matin, vous vous levez tôt, vous le consommez, s'il reste des bricoles, s'il reste un peu des miettes, ces miettes, comme je disais, avant 10h ou 10h30, je ne me rappelle pas, peut-être quelqu'un, il va me dire après jusqu'à quelle heure on peut manger, le reste, vous jetez dans la toilette. C'est les deux possibilités, ils sont cachers, il n'y a pas de problème. Selon ce que vous vous sentez mieux, vous le faites. Prochaine question. Quelle est la prochaine question? Si tu es là, Moshe?
Oui, merci Rav pour ce chiour. J'avais une question par rapport à la vente. Est-ce que vous recommandez une liste ou un système pour la vente qui, il y a plusieurs systèmes qui existent. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? s'il vous plaît?
Moi, je conseille aucune vente. Moi, je conseille seulement une vente personnelle. Si vous avez une femme de ménage ou un associé non-juif, vous avez un voisin non-juif que vous connaissez bien, vous allez chez lui, vous lui dites, c'est Pessah chez nous, j'ai pas le droit d'être propriétaire du Hametz, je vous offre tout mon Hametz comme cadeau, ou vous vendez, s'il veut vous payer, je sais pas s'il veut vous payer, s'il veut pas vous payer, vous lui offrez. Et vous pouvez lui dire, si jamais ça vous intéresse pas après Pâques, et vous savez pas quoi faire avec, éventuellement, vous voulez me rendre si vous pouvez, mais c'est à vous. Ça, c'est ce que je conseille de faire. Ça, c'est vendre ou donner cadeau pour un goy en dehors de la maison, on lui donne le Hametz à la maison. C'est ça que, ça, c'est les mots du Shulchan Aruch. Ça m'est difficile à rentrer dans cette sugya de ce qu'on fait les ventes, mais toutes les ventes qu'on fait, c'est pas glatte et je ne voudrais pas rentrer dedans. Moi, je ne peux pas vous le conseiller, mais vous pouvez vous demander d'autres rabbanim et suivre d'autres rabbanim. Je ne suis pas du tout contre. Mais si vous me demandez à moi, voilà, c'est ça que moi je conseille. Oui?
Oui, concernant l'interdiction de manger la matzah la veille de Pessah, est-ce qu'elle concerne le jour, ça veut dire pour cette année par exemple samedi, ou est-ce qu'on pourrait éventuellement, pour ceux qui ne veulent pas manger de la matzah Shira, faire le motzi de vendredi soir sur de la matzah normale?
Il y a deux minhagim dessus. Il y a un minhag qui, il y a des minhag, il y a quelques minhag de manger, de pas manger la matzah la veille de Pessah, la journée, mais là, le soir avant, il permet. Et il y en a qui ont le minhag de pas manger le soir. Il y a deux minhagim dessus. Prochaine question.
Shalom, Kouadarav, bonjour. Merci pour le chiot. J'aurais aimé savoir, je sais que la dernière fois, on vous avait posé la question concernant de faire l'office de samedi soir avant la tombée de la nuit à la synagogue, et vous aviez déconseillé cela parce que c'était dangereux du fait que les gens risquaient de s'oublier. Qu'en est-il cette année, la Pessah, sachant que samedi soir tombera Yom Tov, et donc quelque part on reste encore dans la fête, mais il reste interdit de porter, etc. Est-ce qu'on peut faire l'office à la synagogue, Béminyan, rapidement, avant 19h, et rentrer chez soi alors que Shabbat n'est pas terminé.
Difficile à répondre à cette question. Je suis pas capable de savoir qu'est-ce qu'il se passe chez les gens. Il y a beaucoup de gens. Si vous êtes un individu et vous savez bien qu'après le Arvit, si vous priez Arvit, Motseï, Shabbat, avant la sortie du Shabbat, il est strictement interdit de travailler. Si vous connaissez cette halakha bien, c'est bien. Mais quand on fait pour un public, on sait pas qu'est-ce qui est dans le public. Du moment dans le public, et il y a beaucoup de publiqués, mais on commence à faire arbitre avant la nuit, on termine avant la nuit. On peut pas savoir, je peux pas répondre à votre question. C'est le minhag, il est qu'on fait pas des choses comme ça en public. Maintenant, si vous avez dit Tamid de Chachamim, ou des dix juifs qui savent bien qu'il faut pas, peut-être oui, mais moi, je le conseille pas de le faire. Prochaine question.
Oui, encore une fois, merci Rav. Qu'est-ce que vous conseillerez concernant la prière du soir du deuxième soir de Pessah? Vaut-il mieux la faire extrêmement rapidement pour pouvoir permettre aux gens de rentrer avant 19h15, ou bien que chacun prie chez lui la tfila et avant le seder avec ses enfants, avec sa famille, benachat, ou bien d'aller très très vite pour pouvoir faire le hallel, etc. Le deuxième soir, après le plague.
Alors, il faut savoir d'abord une petite introduction. Il y a ici Shabbat, et après le premier jour de Yom Tov, après le deuxième jour de Yom Tov. Si, normalement, un Shabbat, on ne peut pas faire Motseï Shabbat à la nuit, parce qu'il y a Onès. Imaginons-nous quelqu'un, un Shabbat normal, mais dès qu'il est Motseï Shabbat, il est obligé de voyager pour un pikouach nefesh. Il y a un cas de force majeure. Il peut pas faire arvit à la nuit. Alors le Shulchan Aruch dit qu'on a le droit de faire arvit avant la nuit. Depuis les plagues mincha, on peut faire arvit, à condition qu'on fait attention de pas faire un travail jusqu'à Motzei Shabbat. Alors cette halakha est marquée sur Shulchan Aruch, elle était dite dans un cas où on ne peut pas faire arvit la nuit. Maintenant, de nos jours, que le gouvernement ici à Paris l'a interdit de sortir de la maison après 19 heures, mais on peut faire arvit quand même à la nuit, personne ne nous empêche de faire arvit à la nuit. Donc, quand le Shulchan Aruch il dit faire arvit avant la nuit, il parle quand il y a une impossibilité de faire arvit la nuit. Mais nous pouvons faire arvit la nuit. Peut-être on peut pas faire Betzibour, mais on peut faire arvit. Donc faire avant la nuit, c'est déjà problématique. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, que si on fait arvit Betzibour, il y a un risque que le Tzibour peut penser qu'après arvit, j'ai le droit de faire des travaux. Et si c'est Shabbat, après Yom Tov, on risque de transgresser Shabbat avant la sortie du Shabbat. Donc, je ne peux que déconseiller de faire la tefila d'arvit avant la nuit. Maintenant, vous me demandez une deuxième question. Le premier Yom Tov et le deuxième Yom Tov. Si on veut faire le arvit du deuxième Yom Tov avant la nuit. Alors, il faut savoir une halakha. Que le premier jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de faire un travail pour le deuxième jour de Yom Tov. Étant donné que le premier jour de Yom Tov, il est mis la Torah, le deuxième jour de Yom Tov, il est mis des Rabbanan. Alors, Yom Tov, on a le droit de cuire pour Yom Tov, mais on n'a pas le droit de cuire pour le lendemain. Alors, il y a une coutume qui veut que chaque fois le Arvit du deuxième jour de Yom Tov, pas d'Afka Pesach, pas d'Afka cette année, toujours, chaque Yom Tov, quand il y a deux jours de Yom Tov à Chutz La'aretz, le Arvit du deuxième nuit, certains, ils ont la coutume de faire qu'à la nuit. Pourquoi? Parce que si tu fais Arvit à la nuit, jusqu'on arrive à la maison, il y a une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, les femmes mettent la table. Les femmes mettent la soupe sur le feu. Parce qu'il faut pas mettre sur le feu avant la sortie du premier Yom Tov. Il faut pas faire un travail le premier Yom Tov pour le deuxième Yom Tov. Donc, il y a deux possibilités. Soit qu'on mange le repas du deuxième Yom Tov de la nuit très tôt, encore pendant le premier jour, ce qui est permis, si c'est pas Pessah. Chaque fois deux jours de Yom Tov, si quelqu'un il a des petits enfants et il veut manger, il veut pas manger qu'à la nuit et retarder avec la tefila et les préparatifs, dans ce cas-là, il peut manger le premier jour encore, le repas du deuxième jour. C'est permis depuis les plagues à Mincha, du premier jour. On peut faire le kiddush du deuxième jour et on se mettra à manger. On peut chauffer la soupe, on peut préparer la table parce qu'on mange encore le premier jour. Mais si on mange pas le premier jour, comme maintenant pour le seder, on va commencer le seder qu'est la nuit parce que le havdalah, le kiddush du deuxième Céder, on peut faire que la nuit. Donc, mais on n'a pas le droit de faire travailler le premier jour pour le deuxième. Donc, préparer la table, faire les préparatifs pour le deuxième céder, on ne peut commencer que la nuit qui tombe. Donc, si on va faire la tefila le premier jour très tôt, comme vous dites, avant 19h, 19h15, on arrive à la maison. Il faut, donc, si on a fait ça, il faut faire attention de faire aucun travail jusqu'à la nuit. Alors, si vous êtes un Talmid Chacham et vous connaissez cette halakha, c'est bien. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas cette halakha. Donc, si on organise une tfila de Tzibour au Plaga Mincha le premier jour de Yom Tov, les gens vont rentrer à la maison et vont dire, je fais Arvit. Ça y est, c'est le deuxième jour, je peux déjà préparer la table pour le deuxième jour. Or, ça, on n'a pas le droit. C'est pour ça, c'est pas très conseillé de faire la tefila de la deuxième nuit avant la nuit. C'est mieux de le faire qu'à la nuit tombée. Alors, on va parler encore un petit peu. Vous avez parlé du chametz, la matzah. Qu'est-ce que c'est ce lien de chametz? Qu'est-ce que la Torah est là contre le chametz? Pesach, on mange pas du chametz. C'est quoi? C'est du poison? C'est du, bon, c'est pas des poisons gashmi, ça, on le sait. C'est du poison rouhani. Alors, pourquoi toute l'année on peut manger? Chazir, on n'a pas le droit de manger toute l'année. Chelef, la graisse, interdite. On n'a pas le droit de manger toute l'année. Il y a un produit là-bas qui est pas bon pour la neshama d'un juif. Évidemment. Mais la chametz, toute l'année, il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de poison dedans. Mais quand il arrive Pessah, ça se transforme. Oh là là, tu manges du chametz, on a chav karet. C'est quoi l'idée? Bon, bien sûr, c'est de Chukim HaKadosh qu'il a décidé. C'est un choc. Mais même les Chukim, on a le droit de donner des explications, on a le droit de proposer. Les Mefarshim, il y a beaucoup, beaucoup d'explications. Alors d'abord, on va essayer de comprendre un petit peu. On parle du Chametz et on parle de la Matzah. Matzah zushanu ochlim al shumma. La Matzah que nous mangeons, pourquoi nous mangeons de la Matzah? Quelle est la raison? Alors, il faut savoir que manger matzah existait trois fois en Égypte. La première nourriture de matzah, c'était pendant les travaux. Quand les Juifs, ils travaillaient, ils mangeaient l'echem oni, le pain de la misère. Ça veut dire quoi, le pain de la misère? Les Juifs, ils travaillaient dur. De temps en temps, ils ont fait une petite pause pour manger. Pendant cette pause, on leur a donné des farines, on leur a donné de l'eau, mélangé, pétrissé, faites le cuire et vous le mangez et vous continuez à travailler. Maintenant, normalement, l'Égyptien, les gens normaux, entre guillemets, ils mélangent la farine avec de l'eau, ils pétrissent et ils attendent que ça fermente. Parce que le fait que les pâtes fermentent, il est beaucoup plus mieux pour digérer. Le pain, on digère mieux quand il était fermenté. Mais les Égyptiens, ils avaient pas laissé les Juifs le temps de fermenter. On mélangeait farine avec de l'eau, pétrissait. L'Égyptien, ils ont dit, tout de suite, tu mets dans le four, tu le fais sortir du four et tu le manges et tu continues à travailler. Donc, on mangeait du pain de la misère. C'est pas bon pour la digestion. On était obligé de manger parce que Monsieur l'Égyptien n'avait pas de patience d'attendre. Ça, c'est la traduction du mot lechem oni, le pain de la misère. C'est pour ça qu'on a déjà dit que le pain achir, on peut pas faire la mitzvah. Parce que la matzah, elle doit symboliser d'abord le lechem oni. Maintenant, il y a une deuxième raison qui est marquée dans le chumash. Yofu et abatzek asherotzi o mitzraim ugot matzot kilo chametz. De quoi il s'agit? Il s'agit comme ça. La Torah, elle a dit que la veille de sortie d'Égypte, les Juifs, ils égorgeaient le Corban Pessah. Ils avaient une mitzvah de manger des matzah ou maror. Avant la sortie d'Égypte, ils mangeaient Pessah, matzah ou maror. Pourquoi ils mangeaient la maror? Pour se rappeler, vayamararu et chayehem. Ils avaient goûté l'amertume de l'esclavage. Et pourquoi il fallait le rappeler? Mais eux, ils l'ont vécu. C'est parce que pendant une année, ils n'ont plus vécu. Les makot bepashtut, ils ont duré une année depuis que Moshe Rabbeinu est venu chez Paro, comme ça, Rashi, comme c'est une partie du Midrash. La majorité des Chachamim pensent comme ça. Moshe Rabbeinu est venu à ses 79 ans et trois semaines, il est venu en Égypte. Et là-bas, il a parlé avec les Juifs, après il a parlé avec Paro, après il avait les 10 makot, chaque maka durait un mois, 7 jours de maka et 3 semaines d'avertissement pour la prochaine maka, ça durait 10 jours, tout ensemble durait 12 mois. Donc depuis que Moshe Rabbeinu est venu chez Paro jusqu'à la sortie, les Égyptiens, ils ont reçu coup après coup. Et pendant ces 12 mois, les Juifs n'étaient plus obligés de travailler. Donc l'esclavage a déjà commencé un peu baisser. Pendant ces 12 mois, ils n'étaient pas tellement esclaves. Alors, ils ont déjà oublié un petit peu l'amertume. Donc, la nuit avant de sortir d'Égypte, ils étaient obligés de manger du maror et ils ont mangé du matzah, lechem oni, pour se rappeler le lechem oni. Ça, c'était la nuit avant la sortie. Moshe Rabbeinu l'a dit, à minuit, les Égyptiens, les Prorim vont mourir. Vous ne sortez pas toute la nuit à la maison. Personne n'a le droit de sortir la nuit. C'est un confinement, comme ils disent. Comme ils disent les Français, confinement jusqu'au matin. C'est interdit. Pourquoi? Parce que les machrit, ils passent pendant la nuit et ils massacrent tout ce qui se trouve dans la rue. Mais le matin, vous allez sortir. Donc, les Juifs, ils ont dit comme ça. Très bien, on va rester à la maison. Et ils ont pris les ceintures sur les reins, ils ont pris le bâton dans la main, ils ont mis les chaussures sur les pieds, et comme ça, ils ont mangé le Korban Pessah. Comme ça, avec cette façon. Après, ils ont dit, qu'est-ce qui va se passer demain matin? Demain matin, on va se lever, on va s'organiser avec les voisins, machin. Et après, on va sortir. À quelle heure on va sortir? On va sortir vers midi, vers 2 heures, on verra. Mais il faut aussi amener du pain. Il faut amener du pain pour le chemin. Et eux, ils n'avaient pas les issours de posséder de Hametz. L'interdiction de posséder Hametz s'était donnée après. C'est pendant la sortie d'Égypte, il y avait une mitzvah de manger matzah. Il n'y avait pas d'interdiction de posséder Hametz. Donc eux, ils se sont dit, demain à midi, on va pétrir du pain. À 11 heures le matin, on va pétrir du pain. On va la faire monter. À 3 heures après-midi, on va les cuire. Et à 4 heures, on va partir. À peu près, plus ou moins, comme ça était le projet des Juifs. Il arrive Paro le matin et il crie, sortez, sortez. Ah, je lui dis, attendez, il faut d'abord, tellement vite. Je savais pas que ça va tourner tellement vite. Non, pas le temps tout de suite. Non, on reste un peu ici. On va ramasser nos affaires. On va prendre de la farine. On va mélanger. On va attendre quelques heures que ça fermente. Sont venus les Égyptiens. Gorshu mi Mitzrayim. Velo yachlu lehitmameya. Vegam tseida lo asu lahem. Les Égyptiens, ils sont venus. Ils les ont chassés. Et les Juifs, ils étaient obligés de prendre vite farine, l'eau mélangée, pétrir. Mais on n'a pas le temps que va fermente. On était obligés de sortir. Donc, ils ont pris Tsrurot, Besimlotam, Al-Shikhmam. Vayofu et Tabatsek. Ils ont cuit la pâte, Asherotsiyam Mitzrayim, qu'ils ont sorti Mitzrayim, Ugot Matzot. On les a cuit Matzot, Kilo Hametz, parce que ils pouvaient pas faire monter. Kigorsh Mitzrayim, alors ils étaient chassés d'Égypte. Gorsh Mitzrayim, Valayochlut Mamei, ils pouvaient pas attendre encore 1 heure, 2 heures pour faire monter. Alors donc, comment ils ont fait? Il y a 2 pshatim. Un pshat, ils ont pris la pâte, dans un tissu, ils l'ont mis sur le dos et ils ont sorti comme ça. Et quand on marche, ça tape. À chaque pas, ça tape. Et il y a une halakha qu'une matzah, une pâte qui n'est pas cuite et qui tape tout le temps, elle peut pas devenir hametz. Ça, c'est un des systèmes. Quand on a une matzah, on fabrique des matzot et il y a un embouteillage devant le four. Il n'y a pas de place. Il faut attendre un quart d'heure qu'il y ait une place qui se libère dans le four. Alors, on refait la matzah, on tape la matzah, on travaille. Tant qu'on travaille sur la matzah, elle devient pas hametz. Alors, donc, le fait que les Juifs marchaient avec la pâte sur les épaules et ça tapait tout le temps, c'est pas devenu hametz. Mais après, ils étaient déjà loin. Soit qu'ils ont fait un four, soit que le soleil a grillé et cuit la matzot, soit même, après eux, ils ont fait un four. Ça, c'est un pshat. L'autre pshat, c'est qu'ils ont mélangé la farine avec de l'eau en Égypte. L'Égyptien, ils sont venus, ils ont dit, on n'a pas le temps que vous attendez que ça fermente. Alors, ils ont vite mis la pâte dans le four, ils l'ont sorti et ils ont mis ça dans un tissu sur les épaules et ils sont sortis comme ça. Maintenant, cette vitesse avec laquelle les Juifs sont sortis d'Égypte, est primordial. Akadosh, il a voulu que tout le peuple juif se rappelle éternellement ce phénomène. Donc, on a dit, il faut que vous mangez la matzah. Akadosh, il a dit, chaque année, vous mangez la matzah pour se rappeler matzazu shanu ochlim al shuma על שלוש הספיק בצקם של אבותינו על החמיץ, עד שנגלה אל מלך מלך המלכים הקדוש ברוך הוא וגואלם, שנאמר ויופו את הבצק. סבידיו, סמירקלה, que les Égyptiens nous ont chassés pour sortir vite, pour se rappeler cette vitesse, à quel moment il a instauré la mitzvah de manger la matzah. Alors pourquoi cette vitesse est si importante? D'après une des explications, il y a beaucoup d'explications, d'après une explication, parce qu'Hachem il a juré à Abraham Avinu dans le Brit Ben Aptarim, כי גר יהיה זרעך בארץ אלוהיהם 400 שנה, ועבדו את מיני אותם עד 400 שנה, ואחרי הם סורטיר, דונק 400 שנה, זה אקזקט, 400 שנה, ז'ור פר ז'ור, יצחק הבינו לנה, לפרמי ז'ור דה פסח, ובן 400 שנה אחרי, לז'ויף סורטי. מתנו לסגונד, כי יצחק הלנה, לז'ויף סורטי דז'י, ופא אין מינות אחרי. זה פרוסנדי, הקדש ברוך הוא שמר את הקץ לעשות, אלא גר דה פיל. Donc les Égyptiens, ils nous ont chassés, d'après une explication, ils nous ont chassés afin que la sortie d'Égypte se passe au moment de la naissance de Yitzhak. Donc c'est important à savoir que Dieu ne rate pas le moment. Il tient sa promesse. Si les Juifs seraient restés encore quelques heures, eh ben, ça aurait été, ils auraient été plus que 400 ans en Égypte. Donc il faut que vous le teniez, sa parole, c'est pour ça que c'est tellement important qu'on mange la matzah. Maintenant, je vais revenir à l'interdiction du chametz. C'est quoi la symbolique du chametz? Donc, le chametz, c'est le contraire de la matzah. Comme la sortie d'Égypte au bon moment est primordiale pour savoir, pour faire confiance à Dieu que quand il promet quelque chose, il tient. Ça, c'est important pour toutes les choses de la vie. Tout ce qui est marqué dans la Torah, les Juifs doivent être sûrs et certains que les choses y vont se réaliser, le Olam Haba et Mashiach et le Bet HaMikdash et toutes les promesses, et que Dieu va toujours nous protéger, qu'il ne nous oublie jamais, et que dans le pire d'exil, après il arrive la Goula, toutes les promesses que la Torah elle a données, nous devons les répéter et les faire rentrer dans la tête à 1000% qu'ils vont se réaliser. Ça, c'est primordial. Donc, c'est pour ça il faut manger la matzah. Et comme le contraire de la matzah, c'est le chametz, et on pouvait pas faire monter, donc la Torah, elle a dit, c'est grave de manger le chametz, on a chayav karet pendant Pessah. Ça, c'est une explication. Il y a d'autres explications qui disent que le chametz signifie la paresse. Parce que ça, on laisse la pâte monter, il fait pas un juif, il doit tout le temps s'occuper des mitzvot. Il faut pas être paresseux. Si on est paresseux, les yetzarara, il fait gonfler la personne. Le chametz, le gonflement, d'après une explication, ça représente la paresse ou ça représente l'orgueil qu'a quelqu'un est gonflé. Il y a une autre explication que pourquoi le chametz, il est si grave pour Pessah. Alors, le pshat, après une explication, c'est comme ça. Les philosophes grecs à l'époque, et pas seulement les philosophes grecs, aussi d'autres personnes, tous les gens du monde, ils ont toujours posé la question, qu'est-ce qui s'est passé avant que nous sommes là? Nous sommes aujourd'hui au 21e siècle, et qu'est-ce qui s'est passé avant? Eh bien, il y avait nos parents au 20e siècle, ou nous-mêmes aussi. Et avant, au 19e siècle. Et avant, au 18e. Alors, on remonte. Et ça commence où? Où ça commence? La Torah nous a dit, « Bereshit bara Elokim ». Au début, il y avait Kadosh Baruch Hu. Et lui, il a mis tout homme en marche. Ceux qui ne voulaient pas reconnaître Hachem comme Boré Olam, comme Paro, alors comment ils se sont imaginés le monde? Il n'y a pas de maître dans le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui a mis le monde en place. Alors, l'alternative à cette chita, c'est quoi? C'est de dire, non, c'est un roulement qui n'a pas de fin, il n'y a pas de but. C'est avant, il n'y a pas de première génération. Avant, il y avait une autre chose. Voilà, c'est comme ça que les apicorsim, ils croient pouvoir s'en sortir, ils peuvent expliquer le début du monde. Il n'y a pas de début parce que c'est toujours avant. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. j'avais déjà dit au début du shiur. Je sais pas, aujourd'hui c'est le moins en moins, ça existe, mais ça existe encore dans des bonnes boulangeries. On achète du pain au levain. Je sais pas si vous étiez déjà boulangerie, pain au levain. Alors le pain au levain, le vrai levain, pas le levain artificiel. Il y a différentes sortes de levain aujourd'hui. Des fois, il y a que le poudre de bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude, s'il n'y a pas de amidon de blé dedans, c'est pas hametz. En tout cas, le vrai levain, j'ai expliqué avant le vrai levain. Le boulanger, il mélange la farine avec de l'eau, il fait une pâte. Et cette pâte, il laisse 2, 3, 4 jours jusqu'il est archi aigre. Après, quand il fait une autre pâte, il prend de cette pâte, il mélange dans le deuxième pour activer. Et après, de cette pâte, on enlève de nouveau un morceau et on le laisse pour le lendemain. Chaque jour, on fait une nouvelle pâte et on mélange un peu du pâte qui était d'hier. Et la pâte d'hier, il aide à fermenter aujourd'hui. Et comme ça, c'est toute l'année. Alors, si on a un boulanger qui travaille 365 jours par année, il y a pendant 365 jours, il a toujours de levain chez lui, toujours le levain d'hier, d'avant-hier. C'est un roulement. On commence jamais quelque chose de nouveau. Et cette idée, la Torah veut détruire pendant Pessah. La Torah nous dit, vous gardez pas le sehor à la maison. Cette idée, le levain, qui est toujours d'hier, hier, comme ça, les apicorsim, ils s'imaginent le début du monde. Et Pessah, la Torah veut qu'un homme, pendant 7 jours et 7 nuits, il se trompe dans la Emouna, dans Boré Olam, tous les Inyan de Mitzrayim, dans la sortie d'Égypte. Le man, sa père, Borosne Bincha, ou Ben Bincha, et Asheita, l'alti Mitzrayim, et Tototai, et Sassam, qui bamfe, et datim, kini Hashem. Il faut que tu racontes à ton fils et à ton petit-fils que je me suis moqué en Égypte, qu'Hashem, il a montré que c'est lui le chef, et pas Paro. Et pas le méchant n'a pas le dernier mot. Zakharibor, il a le dernier mot. Tous les Nissim sont pour Mechazek, Hachem, c'est le maître du monde. Donc la Matzah, on commence. On prend de la farine et de l'eau, on met dans le four. Comme ça a été créé le monde. Et l'expression de la Gemara, que quand Akadejbor, il a créé Adam et Rishon, il a fait comme une espèce de pâte. La Gemara, le Sanhedrin, elle explique, il a pris de la terre du Misbeach, il a mélangé avec de l'eau, il a fabriqué le corps d'Adam Arishon et de Chava. Et après Chava, il a fauté, il a provoqué la mort d'Adam, et l'expression de la Gemara, elle a cassé la Chala du monde. La Chala, c'est Reishit Arisotechem Chala Tarim Oteruma. Quand on fait une pâte, alors on prélève la chala, on donne au Kohen. Adam Arishon était la chala, la première pâte du monde. La première pâte est pour Mechazek, la Emouna, qui est le monde, elle avait un début. Et ce début, c'était Kadesh Baruch Hu. Donc la Torah, elle dit pendant 7 jours, Sohor lo yematze bebatechem. Et la chametz, normalement, il est fabriqué toujours avec du sohor. Et la matzah, et la ni chametz et ni matzah. Ça, c'est un des inyanim de un peu des idées de ce que c'est chametz et qu'est-ce que c'est matzah. En tout cas, une autre idée vis-à-vis de la pâte, on avait dit que tant qu'on travaille la pâte, il devient pas chametz. C'est pour dire, Moussa Raskel, qu'un juif, il doit toujours travailler au sec, ou Torah, ou mitzvot, sinon qu'il se débrouille, Torah, ou malacha, Mashkachatavon, quand on a une activité, Torah et Melacha fait oublier le péché. Si c'est le contraire, la batala, mais via les déchets amoum, le rien faire amène à la folie. La batala, mais via l'idée de Averot. C'est pour ça, la pâte ne fermente pas, il devient pas chametz, l'etzara n'a pas de place, donc on travaille la pâte. Une pâte, il faut travailler. Le cœur des Juifs doit être travaillé L'émouna doit être travaillée. Il faut toujours être au sec, Torah ou Bemitzvot, ou préparer sa vie pour vivre correctement, pour pouvoir faire Torah ou Mitzvot. Pas laisser rien faire, sinon les champignons, ils mangent le sucre et fait gonfler la personne, son orgueil, son ego. Et ça, c'est la chametz. Et la Torah veut ça pour les premiers 7 jours de Pessah. Toute l'année, un petit peu de chametz, un peu d'yetzarara. Des fois, on a besoin parce qu'il faut servir Hachem avec yetzarara aussi. On dit bechol levavcha, b'shtei levavecha, b'shnei yetzaracha. Echad yetzara tov, echad yetzara. Il faut servir avec l'yetzara. L'yetzara, c'est l'égoïsme. Il faut servir Hachem avec l'égoïsme. Si un homme, il aime un peu du kavod, il faut ajouter un peu du kavod pour se booster, pour faire un mitzvah. Et un peu d'yetzara pour faire des mitzvot, il faut ajouter. Mais les premiers 7 jours de Pessah, ça commence le judaïsme. Quand il commence le judaïsme, c'est l'être pur, avec Emouna, Yiret Shamayim, et tout ça, ça c'est la nuit du Seder, et les 7 jours, c'est être rempli avec la Emouna, et la Havtacha, et la promesse, et l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu, il est là pour nous protéger, et il garde la nuit, il nous protège, l'El Shimurim Hu, Shimurim Lechol Bnei Israël et Dorotechem. Marquen Choma, c'est une nuit qui était gardé, qui était protégé, l'échol d'Orotechem, pour toutes vos générations. Pourquoi on dit dans toutes générations? Étant donné que, on dit dans la Haggadah, vi sha'am d'alavotenu v'la nun shalou yichad v'ilva d'amad elen l'chalotenu, elah b'chol d'or v'dor omdim l'chalotenu, elah kadelbou chumatzelenu yadam. Dans chaque génération, quelqu'un il se lève contre nous pour essayer de nous exterminer. Mais il ne réussit pas parce qu'Akibouch ne le laisse pas. Pourquoi on dit chaque génération? Pourquoi on dit pas chaque année? Parce que pas chaque année on veut nous exterminer. Chaque génération. Parce que comme Akibouch nous sauve de leurs mains, ils cassent la figure aux antisémites. Après, ils sont calmés. Ils reçoivent un bon tricha d'Hachem. Ils se calment. Mais quand la génération est parée à une nouvelle génération, alors la Satan, il embrouille la tête. Ils ont oublié la Shoah. Maintenant, il y a des nouveaux qui veulent refaire. C'est chaque fois les antisémites s'inclaquent. Ils attendent une génération. Il y a une nouvelle qui arrive. Ils essaient encore une fois. Et encore une fois, Akadosh Baruch Hu casse leur figure. Le chol dor va dor. Om di malin al chalotenu. L'Akadosh Baruch Hu matzilenu miyadam. Et c'est pour ça, l'El Shimurim Hu. Shimurim, le chol ben Israël, le dorotam. Dans chaque génération, il y a une shmira spéciale. Il y a un danger spécial, il y a un shmira spécial, et la nuit du Seder, le Klal Israël est protégé, pour mechazek le Emouna, ça c'est le mitzvah de Simchat Yontov, et le bitachon b'Hashem, et ça il faut être mechazek pendant les 7 jours, ici à Chutz La'aretz, pour 8 jours en Chutz La'aretz, il faut un peu plus de temps, il y a toujours un jour de Yontov en plus, et bien, Ezrat Hashem, on aura un bon Yontov, un bon Simchat Yontov, avec beaucoup de Kedusha, et beaucoup de simcha et de calme, Ezrat Hashem. Je vais voir, est-ce qu'il y a encore ici des questions? Il n'y a plus de questions. Alors, Pessah Kasher et sa mère, qu'Akadosh nous donne une schout de se remplir avec beaucoup de kedusha, beaucoup de emouna, beaucoup de chizouk, et tout faire, Pessah Kasher et sa mère. Voltouf.